Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Une des grandes joies de notre moment de culte ensemble est d'étudier la parole de Dieu. Comment pouvons-nous adorer Dieu sans savoir qui il est? Comment pouvons-nous l'adorer pleinement sans l'adorer en vérité? Et cette vérité nous vient par sa parole. Ouvrons nos Bibles au 24e chapitre de l'Évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 24. C'est excitant pour nous d'aborder ce passage ce matin. En continuant notre examen de ce grand sermon sur la seconde venue, prêché par notre Seigneur Jésus-Christ. On le connaît sous le nom de discours du Mont des Oliviers. Et d'une part, comme je le dis, alors que c'est une expérience émouvante de revenir à ce passage, je dois aussi m'excuser auprès de ceux parmi vous qui n'ont pas été avec nous les autres fois, parce que certaines choses vont vous manquer en entrant dans ce passage, dans l'optique où nous l'étudions aujourd'hui, parce que nous avons déjà avancé dans le sermon, et nous nous trouvons en fait au verset 16 de Matthieu 24, partant de là où nous en sommes restés la dernière fois. Mais il suffira de quelques points en guise d'introduction pour nous permettre de nous y retrouver. Je ne pense pas qu'il y ait de sujet plus intrigant, plus fascinant que la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Je ne connais aucun sujet biblique qui puisse créer la même curiosité que ce sujet. Et vraiment, il y a peu de sujets dans l'Écriture qui soient aussi motivants pour le croyant comme pour l'incroyant que le sens de la réalité touchant à la seconde venue de Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait « Puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Autrement dit, conscient que Christ viendra pour juger et amener un holocauste terrifiant sur la terre, nous présentons l'Évangile pour que les hommes puissent y échapper. Aussi, Paul dit que nous travaillons, que nous soyons présents ou absents, afin d'être en un sens acceptés de lui. Donc nous autres croyants, servons le Seigneur en sachant qu'un jour il viendra nous récompenser, et nous voulons être trouvés fidèles. Ainsi, la seconde venue de Jésus-Christ, des deux points de vue, soit pour avertir un non-croyant du jugement à venir, soit pour encourager un croyant avec la récompense à venir, est un sujet hautement motivant, et dans aucun endroit de l'Écriture elle n'est présentée plus magnifiquement que justement ici en Matthieu 24 et 25, par le Seigneur en personne. Mais souvenez-vous, c'est un sermon donné par notre Seigneur sur le mont des Oliviers à ses disciples. Avant ce sermon, il a passé son dernier jour de discours en s'adressant aux foules d'Israël, et il a prononcé un jugement sur Israël. Il leur a dit que leur maison serait laissée déserte. Ils l'ont rejetée, et il les a rejetés. À la fin de cette période, il a quitté le temple, est allé sur le mont des Oliviers, et là il prêche un sermon à ses disciples. C'est un sermon qui répond à des questions qu'ils ont posées. Remarquez-les au verset 3 de ce chapitre. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton retour, et de la fin du monde ?» À partir de ce que Jésus a dit, les disciples perçoivent que le royaume est très proche. Ils ne réalisent pas que ce ne sera pas avant des milliers d'années, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a, en fait, deux venues de Christ. Ils viennent une première fois dans l'humiliation pour mourir. Il s'écoule une longue période, puis il vient la seconde fois dans la gloire pour régner. Mais ils ne voient pas ces deux venues. Ils les voient comme une seule. Alors, comme il est venu, qu'il a prêché, enseigné et guéri les gens, qu'il a maintenant purifié le temple, il croit qu'il prépare les choses pour son royaume. En fait, nous les trouvons au chapitre 24, au plus fort de leur attente que le royaume arrive. Et ensuite, il leur donne une prophétie au chapitre 24, verset 2. Parlant du temple qu'ils sont en train de contempler du haut du mont des Oliviers, il dit « Il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il prédit la totale destruction du temple, au point qu'aucune pierre ne tient sur une autre. Or, c'est une bâtisse imposante. Elle n'est faite que d'énormes pierres qui pèsent des tonnes. Pourtant Jésus prédit sa destruction totale. Mais quand il a dit cela, leur curiosité est éveillée, et plus encore leur anticipation, parce que cela les fait prendre conscience que tout sera pour le jugement de tout ce qui existe, pour établir ce que Dieu voudrait. Christ ayant purifié l'intérieur du temple plus tôt dans la semaine, chassant les changeurs de monnaie et les marchands et acheteurs, va maintenant abattre le tout, et nous allons voir le temple du royaume et le culte du royaume, et tout cela va venir. Donc il se trouve dans un moment de grande attente, et il pose cette question. Quand cela arrivera-t-il, et quel est le signe que nous cherchons pour indiquer ta présence dans la gloire du royaume et la fin de l'ère de l'homme? Donc il pense que c'est imminent. Ensuite Jésus leur répond depuis le verset 4 avec un sermon sur sa seconde venue. Mais certains ont essayé de dire que c'est un sermon qui parle de la destruction de Jérusalem, que tout ce sermon fut accompli en 70 après Jésus-Christ, lorsque le temple a été détruit. Pour bien des raisons, c'est impossible, comme nous avons essayé de le montrer dans notre message précédent. Mais je voudrais juste vous apporter une autre pensée à ce sujet. Certains disent, pourquoi décrit-il et prédit-il au verset 2 la destruction du temple, si ce n'est pas son sujet? Pourquoi au verset 2 dit-il que toutes ces pierres seront rasées, au point qu'il n'y en aura même pas deux l'une sur l'autre? Et ensuite, pourquoi passerait-il de là à des milliers d'années plus tard à la seconde venue? Pourquoi parler de la destruction du temple? Je vais vous le dire, c'est très simple. On ne croirait qu'un prophète est un vrai prophète que si ses prophéties faisaient toujours quoi? Qu'elles se réalisaient. Alors comment pourrait-on croire Jésus quand il prédit sa seconde venue, si tous ceux qui entendent la prédiction seront morts bien avant que cela ne se réalise? Autrement dit, c'est très facile de prédire quelque chose. Je pourrais prédire toutes sortes de choses bien à l'avance, des choses qui ne se passeraient jamais, ou qui ne pourraient pas être vérifiées, prouvées, comme correctes ou non, avant que nous soyons tous morts. Comment pourrais-je être connu comme prophète s'il n'y avait aucun moyen de vérifier ce que je dis? En général, le prophète de la parole de Dieu, appelé par Dieu à donner une prophétie éloignée dans l'avenir, donnait aussi une prophétie plus proche pour établir ses références. En d'autres termes, s'il s'avère être exact dans la prophétie vérifiée historiquement, nous pouvons le croire pour celle qui est si loin dans l'avenir qu'on ne peut la voir. Et la raison pour laquelle Jésus mentionne la destruction de Jérusalem du verset 2 en tant que prophétie n'est pas là pour introduire tout le sermon sur cette même destruction, mais pour vous donner un point de vue historique par lequel vérifier qu'il dit vrai. Ainsi dit ici qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que le temple bâti par Hérode était imposant. Je veux dire vraiment imposant. Et nous l'avons décrit en détail. Laissez-moi juste ajouter quelques autres termes qui pourraient vous aider à comprendre toute la description. Le temple a été construit de l'an 20 à l'an 10 avant Jésus-Christ. Il y avait 10 000 tailleurs de pierre et ajusteurs qui y ont travaillé ces 10 ans, pour ne parler que du bâtiment principal. Il y avait aussi 1 000 prêtres qui ont été formés comme tailleurs de pierre et comme charpentiers, parce que seul un prêtre pouvait construire un lieu sacré. Donc vous aviez 10 000 ouvriers et 1 000 prêtres pour bâtir les parties sacrées du temple, et ce n'était que la partie principale du temple. Ensuite, la construction a continué de l'an 10 avant Jésus-Christ, à l'an 64 après. Donc, on a devant soi un projet de construction de 84 ans, avant qu'il soit finalement achevé, en l'an 64 après Jésus-Christ, et qui fut ensuite totalement détruit en l'an 70 de l'ère chrétienne. Donc, 80 ans de travaux sont démolis en l'affaire de quelques mois. Et vous direz, alors la prophétie que toutes les pierres seraient abattues s'est-elle réalisée? Oui, aucune pierre n'est restée sur une autre, et les Romains ont littéralement tout rasé jusqu'au sol. Or ceci s'est vérifié historiquement. L'histoire ne remet pas du tout cela en question. C'est arrivé en l'an 70 après Jésus-Christ, exactement comme Jésus a dit que cela arriverait. Cela semblait ridicule comme prophétie, cela semblait impossible en tant que prophétie, et il semblait que cela ne pourrait jamais être la réalité. Et c'est ce qui en fait une si bonne référence. Jésus prédit quelque chose à quoi on ne pouvait pas du tout s'attendre, qu'on ne pouvait pas du tout prévoir. Personne n'aurait jamais imaginé que quelqu'un d'aussi puissant puisse arriver, qui pourrait abattre cette masse, ni qui souhaiterait tirer en bas un édifice aussi magnifique. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, et je vous ai parlé de la furie et de la passion si forte des soldats romains, au point que le général romain lui-même, debout au milieu du temple, s'égosillant pour les empêcher de tout brûler, ne put même pas les amener à obéir à ses ordres. Ils étaient si possédés je crois, par les forces de Satan, qu'ils ont tout abattu et rasé, tentant d'ôter tout reste du culte de Dieu, mais accomplissant en fait la prophétie de Jésus, lui donnant ses lettres de créance comme celui qui parle en disant la vérité. Maintenant, si nous savons qu'on peut vérifier ce que Jésus a dit dans le passé dans une prophétie proche, on peut le croire pour une prophétie éloignée, n'est-ce pas? Et c'est là que réside la raison pour la prédication de la destruction de Jérusalem au verset 2, comme établissant ses références en tant que prophète véridique. Or, les disciples pensent que tout cela fait partie de la fin. Alors ils demandent, quel est le signe que tout va arriver à la fin? Et c'est leur question du verset 3 qui déclenche le sermon qui commence au chapitre 24, verset 4, et continue jusqu'à la fin du chapitre 25. À propos, le fait que Jésus s'est servi d'une prophétie proche comme une garantie pour lui-même, de sorte qu'il soit cru pour une prophétie éloignée, et quelque chose dont se sont servis Daniel, Ésaïe et Zacharie. C'est caractéristique des prophètes d'agir ainsi. Donc, ils ont posé la question, quel est le signe de ta venue, de ta présence, de ton royaume, de ta gloire, de la fin de l'ère humaine? Et le Seigneur répond en leur donnant une série de signes du verset 4 à 14, qu'il appelle au verset 8 le commencement des douleurs de l'enfantement. Le commencement des douleurs de l'enfantement. Comme nous l'avons dit, les douleurs de l'enfantement surviennent à la toute fin, quand la naissance a lieu. Elles sont ce qui fait que la naissance se produit chez une femme. Donc certaines choses vont se passer à la toute fin de l'ère humaine, dont le résultat sera le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Les versets 4 à 14 donnent ces choses générales qui auront lieu. Elles seront le commencement et la fin, juste avant la venue du Christ. Mais Jésus fait un pas de plus au verset 15, en disant qu'un événement unique donne le coup d'envoi de tout. Quand vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, Bible du Semeur. Or, lorsque vous voyez l'abominable dévastation, vous savez que c'est le déclencheur qui met tout en route. Le verset 21 dit, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. » Donc, lorsque l'on voit cet événement précis, c'est le déclencheur. C'est le signal qui déclenche les douleurs. Et la dernière fois, nous avons vu en détail le verset 15, et avons parlé de l'abominable dévastation. C'est l'Antichrist qui entre dans le temple, qui sera reconstruit à la fin des temps. Les Juifs y rendront leur culte. Il arrive comme leur protecteur. Il vient comme leur allié. Il vient comme celui qui les protège contre la menace de la Russie et l'agression arabe. Il vient pour être, comme qui dirait, leur sauveur. Daniel 9 dit qu'il scelle une alliance avec lui. Il est le chef d'un empire romain réétabli, une confédération européenne, occidentale. C'est exactement ce que prédit Daniel, qu'ils s'assembleront tous, et de leur sein se lèvera ce grand chef qui sera le protecteur d'Israël. Une protection d'une durée de 7 ans. Il viole ce traité avec eux. Il profane leur culte dans le lieu saint. Il y dresse une idole, une image de lui-même, selon 2 Thessaloniciens 2 et Apocalypse 13. Il exige d'être adoré du monde entier, et c'est ce qui déclenche toute la catastrophe de la fin des temps. Donc le verset 15 décrit cela comme l'abominable dévastation. Une abomination est une chose détestable, la dévastation signifiant la ruine, un acte détestable d'idolâtrie qui apporte le sacrilège dans le temple de Dieu. Or, lorsque cela arrive, toutes les choses listées du verset 4 au verset 14 vont déferler. Des pseudo-sauveurs viendront, des guerres, des bruits de guerre, des nations s'opposant à des nations, royaume contre royaume, des famines, des tremblements de terre, et des gens livrés à la persécution pour être tués et haïs. Il y aura des trahisons et de faux prophètes, des trompeurs, et le péché se généralisera, l'iniquité sera partout, est-il dit au verset 12. L'amour du plus grand nombre se refroidira, et tout cela se mettra en route par l'abominable dévastation au milieu des 7 ans. Le faux roi de Satan deviendra le roi du monde, et c'est un homme de péché possédé du démon, inspiré par l'enfer, qui est le Christ, défie Dieu, tue les chrétiens et méprise les juifs. Il prend en main les rênes de la direction du monde, et Satan retire toutes les barrières pour essayer d'anéantir tous les chrétiens, tous les juifs, la nation d'Israël, et pour empêcher Jésus-Christ d'établir son royaume. Soit dit en passant, je crois qu'à ce moment-là, l'Église a déjà été enlevée, donc nous ne serons pas là. Nous nous réjouissons de ce moment où le Seigneur nous emmènera. puis on verra ce jugement sur la terre, et nous reviendrons à la fin de ce temps avec lui du ciel, lorsqu'il établira son royaume. Nous parlerons de ce sujet dans une autre étude prochaine. Donc le Seigneur nous a donné un tableau clair de sa venue. Il dit que voici les douleurs de l'enfantement, voici les choses qui doivent arriver, et voici le déclencheur qui met tout en route. Maintenant, en arrivant au verset 16 à 28, il nous avertit. Il avertit tous les lecteurs qui liront ceci, qui connaîtront ces choses au moment où elles auront lieu. Et son avertissement porte sur quatre choses. Une sérieuse calamité, une confusion subtile, un effondrement spirituel et une seconde venue. Et ce sont vraiment des choses à voir. Le verset 15 dit « Lorsque ». Il commence par « Lorsque ». C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation et passez au verset 16, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Alors, comment faut-il réagir quand cela arrive? Quand il se passe ceci, fuyez, fuyez. Le mot grec est phego, d'où nous avons le mot fugitif. Courez, partez, car tant que vous resterez à Jérusalem, vous serez en danger de mort. Vous serez sujet à la persécution, particulièrement si vous êtes juif, car l'Antichrist veut éradiquer Israël. Satan l'a toujours voulu, tout au long de l'histoire. Car s'il arrive à éliminer Israël, il peut renverser tout le plan de Dieu, qui s'accomplit ultimement en amenant Israël au salut et dans son royaume. Satan, tout au long de l'histoire, a cherché à éliminer les Juifs, et lorsque l'Antichrist domine à Jérusalem, qu'il établisse son royaume justement là, à Jérusalem, les Juifs qui restent là seront très vulnérables. Alors il dit qu'en ce jour, vous feriez bien de courir, mieux vaut courir au loin. Et non seulement ça, s'il se trouve quelqu'un qui, étant croyant, refuse d'adorer l'Antichrist étant chrétien, il fait bien de courir aussi s'il se trouve en Judée. La Judée est la région dont Jérusalem est la ville principale, dans la partie sud de la Palestine. Quiconque parmi vous est croyant, mieux vaut pour vous de fuir aussi, parce qu'il cherchera à vous éliminer. Dans Apocalypse 13, il dit qu'il veut faire la guerre aux saints, et nous savons, selon Apocalypse 12, qu'il veut éliminer Israël. Donc l'ordre général de courir s'adresse à tous ceux qui refusent de se prosterner devant l'image de l'Antichrist. Qu'il s'agisse de juifs ou de chrétiens qui refusent de le faire, il vaut mieux fuir. Ainsi, nous croyons que lorsque ceci se passe, il y aura une sorte d'exode loin du pays, loin de la ville de Jérusalem, pour chercher refuge. Tous n'y parviendront pas. Revenez à Zacharie un instant. L'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. À l'avant-dernier chapitre du livre, chapitre 13, verset 8. Zacharie voit ici la même période. Dans tout le pays, déclare l'Éternel, les deux tiers seront éliminés et mourront, mais l'autre tiers subsistera. Tous les Juifs ne réussiront pas. L'Antichrist s'avancera contre eux, et deux tiers périront. Il y aura un terrible massacre. L'Holocauste futur subi par les Juifs sera aussi terrible, ou même, c'est évident, selon le verset 21, beaucoup plus terrible qu'aucun autre du passé. Deux personnes sur trois périront. Les versets 8 et 9 disent « Un tiers sera épargné, purifié et gardé par Dieu ». Donc Zacharie nous dit que lorsque les Juifs fuient, ils n'échapperont pas tous, tous ne survivront pas. Allez à Apocalypse, chapitre 6. Gardez à l'esprit que nous parlons ici d'un temps semblable à ce temps-ci, et de gens comme nous, et que ce n'est pas une sorte de fantaisie spatiale. C'est quelque chose comme ici et maintenant, et lorsque ce chef politique de l'Europe, réétabli, prend le commandement et dit qu'il est Dieu, qu'il fait cette image, et obtient toutes ces choses, qu'il se met à massacrer la terre, en commençant là, à Jérusalem, chacun devra courir pour sauver sa vie. Ce sera un vrai holocauste, et beaucoup de Juifs périront, comme je viens de le lire. Deux sur trois mourront, et beaucoup d'autres aussi. Dans Apocalypse 6, nous voyons au verset 9 que lorsque le cinquième sceau est ouvert, et c'est un sceau qui décrit cette même période connue comme la tribulation, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ce sont des croyants, ce sont des chrétiens, juifs ou non juifs, peu importe, venus de la période de tribulation, qui sont des martyrs pour leur foi. Ils n'ont pas non plus échappé. Ils sont devenus des martyrs, ils ont perdu la vie, et on les voit ici criant, « Jusqu'à quand, Maître Saint ?» Verset 10, « Jusqu'à quand tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre. Combien de temps encore jusqu'à ce que tu fasses cesser ce carnage par lequel l'Antichrist massacre les saints ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore. La tribulation n'est pas encore à sa fin. Elle ne fait que commencer. Et vos compagnons de service et vos frères doivent être mis à mort. C'est une partie de l'accomplissement. Il y aura des martyrs. Donc Zacharie semble voir des Juifs mis à mort, et l'Apocalypse semble voir des saints qui ont cru en Christ mis à mort. Tous ne pourront pas échapper. Ceux qui n'échapperont pas, c'est là-dessus que je veux insister, vont devoir payer de leur vie. C'est ce qu'il dit. Fuyez lestement, parce que votre vie est en jeu. Dans Apocalypse, chapitre 11, on parle d'environ 7000 personnes tuées dans la ville de Jérusalem, par un séisme. Au chapitre 12, verset 11, il est dit qu'il y a des martyrs qui n'ont pas aimé leur vie, au point de craindre la mort. Autrement dit, tandis que certains trahissent Christ et que certains le renient plutôt que de mourir, il s'en trouve qu'ils n'aiment pas leur vie si fort, qu'ils sont prêts à mourir pour le témoignage de Christ, et ils mourront. Au chapitre 13, verset 7, il est dit qu'il fait la guerre aux saints et qu'il les vainc. Ceci indique de nouveau le martyr. Le chapitre 17, verset 6, décrit le faux système religieux, ivre du sang des martyrs. Donc tous ces passages nous montrent que lorsque cette chose arrive, que l'abomination de la dévastation est établie, l'Antéchrist devient le chef du monde. Il tire son énergie de Satan. Il est assisté de forces démoniaques et d'hommes et de femmes partout dans le monde. Il avance contre Israël et ils devront fuir pour sauver leur vie, et seulement un tiers d'entre eux en réchappera. Il agit contre les croyants durant toute cette période et ils doivent fuir pour sauver leur vie. Et pas tous non plus n'en réchapperont, mais pour ceux qui doivent fuir, il y aura une aide surnaturelle. Et il y a particulièrement ceci, une indication dans Apocalypse 12 concernant Israël. C'est un passage des plus fascinants. Dans Apocalypse 12, vous avez quelques images. Il y a une femme et un enfant, et la femme est Israël, et l'enfant est Christ. Et ceci décrit le fait que Christ est né de la nation d'Israël. Ensuite, il y a un dragon dans ce tableau, et le dragon est Satan. Et le Satan persécute la femme, évidemment, et veut tuer l'enfant. Mais il y a un grand champion de la cause de Dieu pour protéger la femme et l'enfant. Et ce n'est nul autre que Michel, verset 7. Et Michel combat les démons. Et Michel est le plus fort au verset 8. Michel est le vainqueur. Reprenons depuis le verset 6 pour relier ensemble ce qui se passe là, et plus loin au verset 14. Quant à la femme, c'est-à-dire Israël, ici nous sommes dans la tribulation. Lorsque Satan fait tout ce qu'il peut pour détruire Israël, et bien entendu, le royaume du Christ, elle s'enfuit dans le désert. Ici Israël court pour sa protection, où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourri pendant 1260 jours, ou 42 mois, ou 3 ans et demi. C'est toujours la même période de cette grande tribulation. Cela ne change jamais. C'est toujours 3 ans et demi, parce qu'au milieu de l'alliance de 7 ans dont parle Daniel, l'Antéchrist fait une alliance de 7 ans, il la rompt, et pendant 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, vous avez ce carnage. Donc Israël fuit, et durant les 1260 jours, il est protégé dans un lieu préparé par Dieu. Or Israël est un endroit idéal pour fuir, car il y a des grottes un peu partout, dispersés partout dans le pays. Là-bas en Édom et dans Moab et partout. Il y a de nombreux endroits où se cacher dans le désert désolé de cette région. Maintenant le verset 14. À cette femme qui est persécutée, le verset 13 montre Satan persécutant la femme. Elle court maintenant. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Je suis enclin à penser que c'est Michel. Michel, le protecteur du peuple de Dieu. Et je pense que c'est surnaturellement que ce grand champion du peuple de Dieu, ce grand protecteur d'Israël, volera dans le désert, emportant le peuple. Et là-bas, ils seront nourris un temps, des temps, c'est-à-dire 2 et la moitié d'un temps. C'est une moitié. 1 plus 2 plus une moitié, cela fait 3 et demi. Nous voilà avec la même durée. Donc, durant 3 ans et demi, surnaturellement, Michel et ses anges vont délivrer ceux qui auront pu s'échapper en un lieu sûr et endroit protégé. Cela fait certainement référence à Israël, et pourrait bien faire référence aussi aux non-juifs croyants et à d'autres qui auront réchappé au massacre de l'Antéchrist. Maintenant, nous pouvons revenir à Matthieu 24. Alors notre Seigneur dit, « Voici, Lorsque vous verrez cet événement, courez aussi vite que vous pourrez, sortez de là. » En fait, le verset 16 dit « Allez dans les montagnes, fuyez dans les montagnes, où vous pourrez vous cacher. » Ensuite, le verset 17 est descriptif « Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. » Si vous vous trouvez sur le toit, en ces temps-là, le toit était là où se trouvait un patio. Il y avait un escalier extérieur pour y mener. On voit encore de telles maisons en Israël de nos jours, et les gens se tenaient sur le toit. Si vous êtes surpris là-haut, ne descendez même pas pour aller chercher vos affaires. Descendez les escaliers et quittez la ville, car les choses se passeront, comme il est dit dans Apocalypse. La dévastation viendra, et la mort déferlera, comme un déluge. Cela arrivera comme une inondation subite, comme un feu traversant le pays. Partez, n'entrez même pas pour récupérer vos possessions, et n'emmenez rien. Sautez du toit et courez aussi vite que possible. C'est dire la terreur de ce temps qui arrive. Tout délai signifie la mort. Ainsi, le Seigneur considère comme normal de partir vers la sécurité et pousse à le faire. Le Seigneur ne veut pas qu'il reste là pour faire face au bal. Il dit simplement de partir de là. Il ne se fait pas l'avocat d'un complexe de martyrs. Courez. Le verset 18 dit « Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Il parle ici d'un manteau de dessus, et que si vous étiez dehors, travaillant au champ, que vous aviez laissé votre manteau sur la charrette, à 400 mètres de là, que vous étiez occupé dans le champ, au moment où la nouvelle qu'il se passe quelque chose vous atteint, ne retournez pas à la charrette pour le récupérer, partez. Courez tout le temps, parce que Satan a pris le pouvoir. Les forces de l'enfer sont en place, et le massacre approche. Sortez de là. » Ensuite, le verset 19. « Malheur aux femmes. » Littéralement, le grec dit « aux femmes, ayant quelque chose dans leur ventre, qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront, durant ces jours-là. » Vous direz « Pourquoi ?» Eh bien, certains commentateurs disent que c'est parce qu'il sera si difficile de courir en étant enceinte. C'est dur de courir quand on a un petit nourrisson dans ses bras. Et il ne fait pas de doute que ce soit vrai. Mais je pense qu'il y a là quelque chose de plus. Et, en étudiant la Bible pour essayer de voir exactement ce que le Sauveur disait ici, j'ai été attiré vers le 14e chapitre d'Osée, et à un moment où Osée contemple la fin, et parle du salut d'Israël, et du retour d'Israël, et comment Dieu amènera le jugement sur ceux qui ont jugé Israël faussement. Et au verset 1, il est dit ceci, que je trouve plutôt intéressant. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Or, lorsque Dieu mène son jugement contre son peuple rebelle, lorsque Dieu vient mettre fin à l'iniquité d'Éphraïm, lorsque Dieu vient pour restaurer, il doit tout d'abord purifier. Et il est dit au verset 1, à la fin du verset, « Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés. » C'est pourquoi il avertit ceux qui ont des petits bébés. Je crois que lorsque l'Antichrist viendra, ceci est une indication. Il y aura l'élimination de petits bébés. Vous le voyez prophétisé ici, en Osée 14, 1. Vous le voyez accompli même lorsque Christ est né. Quand Satan a essayé d'empêcher la naissance du Christ, qu'a-t-il fait? Il a massacré tous les bébés. Lorsque Satan a voulu tuer le prophète de Dieu qui était comme Christ, et c'était Moïse, qu'a-t-il fait? Il a massacré tous les petits garçons, essayant d'atteindre Moïse. Et rien ne sera différent dans cette période-là. L'Antichrist, je pense, amènera sur le monde une activité infernale d'une telle ampleur qu'elle inclura la mise en pièces des tout-petits et que les femmes enceintes, celles qui attendront un enfant, auront leur ventre transpercé. Et je crois que c'est premièrement pour cette raison que le Seigneur avertit à cet égard que les choses qui vont arriver en ce temps-là sont pour nous presque inexplicables, presque incroyables. Mais c'est parce que nous ne comprenons pas la nature du massacre tel qu'il sera, quand Satan aura le contrôle total sur le monde, que l'Église sera enlevée, quand ce qui le retient aura été retiré, et que le péché aura libre cours, que l'enfer sera lâché. Et c'est ce qui arrive. C'est à cause de tout cela que le Seigneur dit qu'en ce jour-là, mieux vaudra courir, et vite. Oh, quelle tristesse pour celles qui ont des bébés qui seront mises en pièces, et celles qui seront enceintes, qui devront faire face à la possibilité d'avoir leur ventre sauvagement transpercé. Inconcevable. Ensuite, au verset 20, il dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Ceci pour accentuer l'urgence. Priez que ce ne soit pas en hiver. Il pourrait faire froid, il pourrait pleuvoir, ou même il pourrait neiger, car il y a des régions en Israël où il neige. Donc il vous faut prier que cela ne se passe pas à un moment où vous ne pourriez pas vous déplacer rapidement, ni un jour de sabbat. Priez que ce ne soit pas le sabbat, particulièrement si vous devez courir ou conduire dans certains quartiers de Jérusalem, car s'il se trouve que c'est dans des quartiers où vivent des juifs radicaux légalistes, ils vous lapideront si vous faites cela, car ils observent la loi du sabbat, où la distance maximale d'un jour de sabbat est de 850 mètres environ. Et même si aujourd'hui vous essayez de traverser un de ces quartiers, on vous jetterait des pierres. Nous les avons traversés, mais pas un jour de sabbat, et à pied. Ceci est une autre indication que notre Seigneur dit d'espérer que ce ne sera pas un jour où vous serez gêné pour sortir de la ville. Espérez que vous ne serez pas dans un état physique, où vous auriez un petit avec vous, ou que vous seriez enceinte. Espérez simplement que vous pourrez courir aussi vite que possible, et que vous n'aurez pas à revenir chercher quelque chose. Sortez, parce que le massacre sera inimaginable. Pourquoi ? Verset 21. Car alors la détresse sera si grande, de grandes, très grandes perturbations, pressions, qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Le moment le pire que le monde a connu. Il n'y a rien de semblable. Vous pouvez amonceler tous les holocaustes de l'histoire humaine, et il n'égale pas celui-là. Sauvez-vous, le Seigneur dit, partez, et beaucoup mourront, d'après tout ce qui est décrit dans les versets 4 à 14, parce que quand l'abominable dévastation a lieu, viennent ensuite les guerres et bruits de guerre, vient ensuite la dislocation de toute la terre, les famines, les tremblements de terre, les pestes dont Luc parle, et les trahisons, les persécutions et la haine, et tout se met à se déchaîner. Et soit dit en passant, ceci nous est décrit en Apocalypse 6 à 19, en détail. D'abord les sceaux sont ouverts, puis les trompettes retentissent, les coupes sont versées. Tous sont des images d'actes de jugement qui vont croissant, qui augmentent en importance et en intensité sur la terre. Et à propos, cette période dure 3 ans et demi, comme nous l'avons dit tout le temps. Et cette expression nous est clairement donnée, non seulement dans le livre de l'Apocalypse, mais même par le prophète Daniel, qui ne nous laisse aucun doute quant à la durée dans le temps, parce qu'il est dit dans Daniel 7, 25 que cet antichrist qui vient sera là pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Encore une fois, un temps fait un, deux temps font deux, et la moitié d'un temps fait une demi, 3 ans et demi. C'est toujours le cadre étalon pendant lequel ce grand chef fait des ravages sur toute la face de la terre. Et nous avons vu en Daniel 12 la dernière fois d'autres mentions de ce même cadre temporel. Et en Apocalypse 11:2, ce même concept de 3 ans et demi est mentionné, de même qu'en Apocalypse 13:5. Maintenant, à quel point la détresse est-elle sévère ? Verset 21. Si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Vous savez, dans un sens, c'est triste à dire, mais le meilleur message à donner à Israël aujourd'hui est que les choses n'iront pas mieux. Elles deviendront infiniment pires. Elles iront si mal que la prophétie de Zacharie s'accomplira. Il y aura une profanation et une abomination. Il viendra un holocauste sur Jérusalem, qui prendra la vie de 2 sur 3 d'entre vous. Il viendra quelque chose de dévastateur, sans égal, avec tout ce que vous pourriez imaginer dans l'avenir. Un temps où, comme le dit Osée, il se pourrait bien que l'on fende le ventre de vos femmes enceintes, et où les enfants de vos femmes qui allaitent seront brisés en 1000 morceaux. C'est incroyable de l'imaginer. Mais puis-je, s'il vous plaît, vous dire une chose? Rien de tout ceci ne pourrait se rapporter à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. La seule raison pour laquelle le Seigneur en a parlé était comme point de référence. Essayez d'en faire l'accomplissement complet et stupide. Mais ceux qui veulent le faire souvent veulent aussi que tout le livre de l'Apocalypse se rapporte à la destruction de Jérusalem, ce qui ne peut faire l'affaire, à moins d'être absolument malhonnête face à l'Écriture. Donc, c'est le pire moment de l'histoire du monde, et au verset 22, quelque chose de tout à fait fascinant. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Or, il est intéressant de réfléchir à ce que cela signifie. Que veux-tu dire, abrégé ? Eh bien, il y a 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Chaque fois que la Bible en parle, elle dit ceci. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et nulle part, il n'est dit que ce serait plus court. C'est toujours la même durée. Donc le mot pour abréger, qui est un mot intéressant, ekolobotezan, pourrait signifier qu'il s'est arrêté instantanément. Cela finit immédiatement. Cela cesse rapidement, à moins que cela se termine vite. Même les élus seraient anéantis. Mais je pense qu'il y a une meilleure explication pour le terme. Il n'est pas dit si ce jour n'était abrégé, ce qui engloberait toute la période, comme une sorte de jour de jugement. Et la Bible utilise souvent ce singulier pour le faire, ce jour de jugement, ce jour de châtiment. Mais il est dit ces jours, ces jours. Et si vous le prenez tel quel, ces jours de 24 heures, si ces jours de 24 heures n'étaient abrégés, je crois que lorsqu'arrive l'abomination de la dévastation et que les gens se mettent à fuir pour leur vie, des juifs et des croyants, essayant de s'échapper de l'holocauste de l'Antéchrist, que Dieu, de manière surnaturelle, dans sa miséricorde et sa grâce, va modifier la longueur du temps de lumière afin de leur donner la protection de l'obscurité. Vous direz, eh bien, d'où tirez-vous cela? Regardez Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Et ici, le sixième sceau est ouvert durant cette période. Et il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme des figues vertes d'un figuier. Verset 14. Le ciel se retira, comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Or je pense que vous avez ici une modification des corps célestes, et le soleil devient noir, il devient obscur. En fait, si le soleil est noir, la lune est aussi éteinte, et si les étoiles s'éteignent, il fait nuit. Chapitre 8, verset 12. Le premier groupe de jugements que nous venons de voir sont les sceaux. Le second, ce sont les trompettes. Mais voyez ce qui arrive dans les jugements des trompettes, au chapitre 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcirent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté. La lumière du jour sera réduite d'un tiers. Maintenant, vous allez au chapitre 1, verset 10. En 16:10, il est dit. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Et je crois que ce qui arrive est qu'il y a de moins en moins de lumière, jusqu'à ce que finalement, à la fin de la période de tribulation, il fait totalement nuit, et les armées de l'Antéchrist se meuvent dans une obscurité totale. Et bien sûr, ceci fournit une protection pour les élus. Et maintenant, revenez à Matthieu 24. Et vous voyez, je pense que si nous l'interprétons de cette manière, au moins c'est plausible. Je ne peux être dogmatique à ce sujet, mais il me semble que c'est sensé. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Ce n'est que la protection de l'obscurité et le fait que la lumière disparaît qui sauve les gens. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés, parce que Dieu préserve le peuple qu'il a choisi. Or, vous pouvez lier le mot « choisi » à Israël, « mon élu », comme il est appelé dans l'Ancien Testament. Israël, mon élu, Dieu affirme qu'il a élu cette nation. C'est donc vrai qu'il protège son peuple. Il se garde en reste. Il épargne un tiers, afin de pouvoir les racheter et leur apporter le royaume. Tous les Juifs ne peuvent pas mourir. Ainsi, je peux voir dans ceux qu'il a choisis ici, la nation d'Israël, telle que nous la voyons dans Romains 9 à 11, où Paul parle d'Israël comme la nation élue, l'Israël non racheté, mais Israël en tant que nation. Et je peux aussi voir, dans le mot « choisi », les croyants rachetés de toutes les nations, mais afin de préserver sa nation élue et de protéger son peuple élu racheté. Il abrège les jours pour que l'Antichrist ne puisse pas massacrer à la fois les Juifs et les croyants, par égard aux élus. Cela me plaît. C'est la première fois dans le Nouveau Testament que le mot « élu » est utilisé. Et maintenant, on nous présente un nouveau concept concernant ceux qui appartiennent à Dieu. Nous lui appartenons parce qu'il nous a choisis. « Élu » signifie « choisir » ou « appeler ». Il nous a choisis. Il a choisi Israël. Il nous a choisis. Qu'Israël soit sa nation élue, nous ne le discutons pas. Vous savez, même ceux qui veulent nier la doctrine de l'élection, se rapportant au salut, ne nient pas la doctrine de l'élection qui concerne Israël. ils ne disent pas. Alors, un jour Dieu est venu dire, « Qui veut lever la main pour être ma nation ? Qui ?» Et les Juifs ont dit, « Nous ?» Non. Que Dieu ait élu Israël n'est pas remis en question. Et si Israël est l'élu de Dieu, alors pourquoi serait-il dérangeant que l'Église soit aussi l'élu de Dieu ? Donc il dit, « Je vais prendre soin de mes élus. » Et vous savez quoi ? Il prend soin de ses élus. Personne ne survivrait pour entrer dans le royaume. Il n'y aurait aucun juif racheté pour entrer dans le royaume. Il n'y aurait aucun non-juif racheté pour entrer dans le royaume s'il n'avait pas modifié les jours pour qu'ils puissent être en sécurité. Écoutez, savez-vous ce que ceci me dit ? Lorsque Dieu choisit quelqu'un pour lui-même, il garde cette personne pour lui-même, et il accomplira sa promesse, dût-il restructurer l'univers entier. Cela vous donne-t-il un sentiment de sécurité ? À moi, oui. Le Seigneur va littéralement réorganiser tout le corps de l'univers pour protéger les siens. Merveilleux. Donc, pour l'amour des élus, il change tout et réduit la lumière du jour à une courte période et finit par l'éteindre complètement pour qu'ils puissent être en sécurité. Or, l'obscurité totale ne pourrait durer trop longtemps, sinon rien ne pourrait pousser. C'est pourquoi cela arrive tout à la fin. Et je vais vous dire autre chose. Vous réduisez la lumière d'un tiers et cela va affecter le cycle de croissance, pas vrai ? Et c'est pour cela que vous aurez des famines partout sur la terre. Et cela va même contribuer à davantage de haine et de colère, et à plus de guerre, et en plus tout le reste. Mais c'est afin de protéger les élus, si merveilleux. Le Seigneur va jusqu'à ces choses extrêmes pour protéger les siens, même jusqu'à changer tout le fonctionnement de l'univers par amour pour les élus. Oui, quelle pensée réconfortante. Donc il dit, voici, si vous êtes vivant quand vous voyez l'abomination, courez aussi vite que vous pouvez, parce que 1. Une sérieuse calamité arrive. 2. Et faites attention, c'est très facile à voir, une subtile confusion. Or, voici ce qui se passe. Tous ces gens courent, et ceux qui ne meurent pas se cachent. Ils se cachent tous quelque part, et le Seigneur en prend soin. Et peut-être qu'ils sont nourris de la manne du ciel, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le Seigneur prendra soin d'eux, mais ils sont là, des gens d'Israël et des rachetés, et ils se cachent. Et vous savez ce qu'ils attendent ? Ils peuvent lire Matthieu, et ils le liront en ces jours-là. Ils diront, « Ça y est, nous l'avons vu, nous l'avons vu. Alors, voyons donc, nous avons couru, nous avons couru. Nous sommes dans les montagnes, nous sommes cachés. Ça y est, le Seigneur va venir. » Et ils sont très fragiles, voyez-vous. Les gens en grand désespoir, qui sont à bout, sont extrêmement fragiles. Et certains faux prophètes pourraient arriver en courant et en disant, « Il est là, il est là. » Il est là-bas dans le désert. Il est en bas vers la mer. Nous l'avons caché dans une chambre secrète à Jérusalem. Venez, venez voir. Il serait très vulnérable. Donc le verset 23 dit de faire attention à une confusion subtile. Non seulement une sérieuse calamité, mais de la confusion subtile. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Messie est ici, ou il est là, quoi ?» Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. C'est une tromperie. Ils essaient de vous faire tomber. Ils essaient de vous piéger. Ils essaient de vous avoir. Ils veulent vous capturer et vous tuer. Ils veulent vous massacrer. Ce que le dragon Satan veut faire, c'est éliminer les Juifs. Il veut éliminer les rachetés, ce vieil ennemi de Dieu. Et il utilisera tous les moyens. Il utilisera la tromperie en disant, « Oh, Christ est venu. Il est là, tout près. Oh, il est là-bas. Venez, il est ici. Vous allez le manquer. N'en croyez rien. » Car de prétendus messies surgiront, qui prétendront être le messie, et de faux prophètes, de ceux qui annonceront celui qui prétend être le messie, ses émissaires. Oh, il est là, il est ici, venez le voir, et ils montreront de grands signes et des prodiges, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ils feront des miracles sataniques, des contrefaçons de miracles. Ils manifesteront une puissance diabolique. Ce sera merveilleux de voir des prodiges qui sont si bien faits qu'ils pourraient même tromper ceux qui ont été choisis, est-il dit au verset 24. Si c'était possible, ils tromperaient même les élus. Voulez-vous savoir quelque chose ? Ce n'est pas quoi ? Ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'il le dit. Autrement, il dirait que cela tromperait même les élus. Il dit non, s'il était possible, il tromperait même les élus. On ne peut pas tromper les élus. Les vrais élus qui connaissent vraiment Christ ne pourraient jamais être trompés quant à qui il est. Lorsque Sun Myung Moon dit « Je suis le Christ. » Je dis, « Non, vous ne l'êtes pas. En fait, vous n'êtes même pas dans la bonne période. Attendez la tribulation. Alors venez dire ça, et nous ne vous croirons pas non plus. Si quelqu'un dit, « Je suis le Christ. Voici le Christ. Voilà le Christ. Le Jésus mormon. Le Christ des témoins de Jéhovah. Ce Christ-ci, ce Christ-là. Vous ne tromperez jamais quelqu'un qui connaît vraiment le Christ. » Jean 10 dit, « Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent, et je les connais. Et si quelqu'un part suivre un autre Christ, c'est qu'il n'a jamais connu le vrai Christ, parce que dès que vous connaissez le vrai Christ, vous ne pouvez pas être dupé. Donc les élus sont protégés. On ne peut les tromper, et ils ne peuvent être anéantis, parce que la souveraineté de Dieu les protège, en réorganisant l'univers, et ils ne peuvent être dupés, parce qu'ils ont en eux la connaissance du vrai Christ. Mais on va les attaquer. Les faux Christ viendront et diront, « Voici ces gens. Ils sont désespérés, attendant le Messie. Le monde se disloque, le calendrier change, les étoiles tombent du ciel, des guerres partout, des carnages, des massacres, des rivières se changent en sang, la mer se change en sang. Tout l'Holocauste d'Apocalypse 6 à 19, tout autour d'eux. Et ce n'est que dévastation dans le monde. Toutes les plaies se déchaînent, des séismes, des famines, le tout. Et ils se sont cachés, tenant le coup pour la venue de Jésus-Christ. Ils seraient si vulnérables face à une horde de faux prophètes qui disent « Il est ici, il est là, venez le voir. Nous l'avons, il est ici. » Alors, si vous l'entendez, ne le croyez pas, parce que tous ces trompeurs viendront. Verset 25. Voilà, je vous l'ai annoncé, il l'a fait. Au verset 5 et au verset 11, il dit « Des faux Christ, des faux prophètes, des faux messies. Je vous l'ai déjà dit. Il leur a dit longtemps avant. » Il leur a dit clairement déjà en Matthieu, chapitre 7, Matthieu 15, Matthieu 16, Matthieu 23. Il leur a dit constamment, « Attention à ces trompeurs, ne soyez pas dupes, ne cherchez pas un messie secret quelconque. Attention à ceci, verset 26. Si donc on vous dit, « Psst, par ici, il est au désert. » Non, il est dans une chambre secrète. Nous l'avons caché dans une chambre secrète. Ne le croyez pas, n'y allez pas, ne vous en approchez pas. On vous trompe. Vraiment? Alors comment saurons-nous quand il arrive ici? Verset 27, si génial. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. N'est-ce pas génial? Je veux dire que ce sera comme un éclair traversant le ciel d'est en ouest, choquant simplement tout le monde. Sa venue sera soudaine, publique, visible, universelle et glorieuse, et le monde entier le verra. Regardez Apocalypse 1, 7. Il est dit ceci. Le voici qui vient, avec les nuées. Maintenant, attention. Apocalypse 1, 7. Tout œil, quoi, le verra. N'est-ce pas fantastique? On ne dira pas, « Oh, est-il venu? Je l'ai raté. Quand était-ce? Est-il vraiment venu, réellement? Ce ne sera pas comme ça. Et personne n'ira dire, « Psst, il est ici. C'était sans bruit. Ne le croyez pas. » Lisez Apocalypse 19. Il vient un grand bruit du ciel, chevauchant un cheval blanc, suivi de tous les saints en robe blanche, avec les anges de la gloire céleste. Il vient sur terre, une épée à la main, vêtu d'un vêtement taché de sang, pour apporter le jugement sur le monde et pour détruire toutes les armées qui se sont rangées en bataille contre lui. Je veux dire que ce sera une venue que chacun verra. Donc, quand vous voyez le signe, courez vite, parce que vient la sérieuse calamité, la confusion subtile, et une chose encore, la corruption coupable, verset 28. La corruption coupable. Partez à cause de ce qui va arriver. Le monde va devenir si corrompu, si méchant et si pourri. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Or, c'est une sorte de petit dicton. Vous voyez un cadavre, vous verrez des vautours. En Israël et en Palestine, il y a des vautours. Ils sont indigènes dans la région. Le mot grec est « aetos ». Il veut dire « vautour ». Parfois, on les appelle des aigles, mais à la base, le mot parle plutôt d'un vautour. Et ce qui va se passer là est simplement comme cette analogie. Où vous trouvez un cadavre, vous aurez un vautour venant dépiécer ce cadavre. Et c'est exactement comme cette image. Christ viendra un peu comme un vautour vers une carcasse morte. Le monde sera si corrompu, si coupablement corrompu, qu'il sera inerte là, comme un cadavre mauvais. Pécheur, corrompu, ayant décomposition vers lequel le Seigneur viendra en jugement pour déchirer et tirer sur cette carcasse, en arracher des lambeaux et la mettre en pièces, C'est une image très saisissante. Or, ce qu'elle dit, ce qu'elle implique, c'est que le monde deviendra mort et corrompu. Donc vous devez fuir à cause de la sérieuse calamité. Il faut courir et faire attention à la confusion subtile. Il faudra fuir pour être quelque part avec ceux qui sont en sécurité, à cause de la corruption coupable. Le monde va progressivement se décomposer. Il sera plus mauvais que jamais. Revenez au verset 12. Le mal progressera. L'iniquité augmentera. L'Église n'est plus là. Le Saint-Esprit a retiré sa force de retenue. Tout l'enfer se déchaîne. Le péché se généralisera. Et tout devient si mauvais et si corrompu que ça ressemble au cadavre d'un animal sale, pourri, en décomposition. Et, tel un vautour qui descend en planant, comme qu'il irait, pour emmener ce cadavre, Dieu vient détruire ce qui reste de cette corruption coupable. Dieu plane en quelque sorte dans un jugement final. Et c'est exactement ce que Paul a à l'esprit quand il écrit à deux Thessaloniciens, que Dieu viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi traîner avec le mauvais système du mal qui ne va qu'empirer? Certains vont traîner les pieds. Il est dit parce que l'iniquité abondera, verset 12, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ils disent qu'ils aiment Christ, mais ils l'abandonneront pour le péché, parce qu'ils y traînent. Courez, ne traînez pas pour être corrompus par ce péché, et pour être finalement jugés par Jésus-Christ qui vient. Ce monde vil, mauvais et méchant sera amené en jugement. C'est une image très frappante. Quels sont les signes de ta venue? Voici les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce qui les met en route? L'abomination de la dévastation. Que doivent faire ceux qui sont vivants quand cela arrivera? Fuir. Pourquoi? À cause de la sérieuse calamité qui arrive, la confusion subtile et la corruption coupable. Sortez. Et une chose encore se passera immédiatement. Verset 29. Et aussitôt. Et nous nous arrêterons ici. Vous revenez la prochaine fois pour savoir ce que c'est. Inclinons-nous pour prier. Seigneur, nous te remercions pour notre étude de ta parole aujourd'hui. C'est profond, riche et exaltant de penser à la venue du Christ. Cependant, Seigneur, nous savons que c'est tragique pour ceux qui ne connaissent pas le Sauveur. Ô Dieu, nous prions que chacun ici examine son cœur, soit sûr de connaître Jésus-Christ, d'avoir son salut et son pardon, de manière à pouvoir faire partie des rachetés pour entrer dans la gloire, et non de ceux qui sont laissés dans ce monde pour subir le jugement. Aide-nous, Seigneur, à voir ces choses qui arrivent, et à convaincre les hommes, à les appeler au Sauveur, qui seul peut les sauver de la colère à venir. Nous te remercions pour la promesse que nous serons protégés de l'heure qui testera la terre, que nous serons sauvés de la colère à venir, que nous allons être avec Jésus-Christ, que nous serons là, au moment des récompenses, pour service fidèle, et pour le repas des noces de l'agneau, tandis que la terre traversera cela, et que nous reviendrons avec lui à la fin de son royaume glorieux. Père, aide-nous à être fidèles dans les jours que nous avons pour avertir le monde et à vivre à la lumière de ta venue. Pour l'amour du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.